Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir. À vous qui nous rejoignez sur Twitch, bienvenue, vous êtes très nombreux et très nombreux, ça fait plaisir. Bonsoir à vous si vous nous regardez sur YouTube en replay, bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver dans cette émission Backseat, une émission qui est réalisée grâce à vous. C'est vous qui financez cette émission. Venez participer au financement de Backseat en prenant un abonnement sur KissKissBankBank. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et dans le chat de Twitch et un peu partout. Vous aussi, rejoignez le club Backseat qui vous permet d'avoir accès au VOD en avance, qui vous permet d'avoir des invitations à des événements, qui vous permet d'avoir une carte dans votre portefeuille. Enfin bref, un milliard de trucs. Financez Backseat. Elle est faite pour vous cette émission, chers amis. Je la fais pas tout seul puisque je suis avec des chroniqueurs et chroniqueuses de très grand talent. Ce soir, on est avec Sacha. Salut Sacha.
Salut Jean.
Tu vas bien?
Écoute, j'ai rêvé de Gérard Larcher cette nuit, donc je me demande où en est ma santé mentale.
Ouais, non, ouais, ça va, non, ouais, ça va
je
pas.
Je me suis posé des questions.
Ah non, c'est pas bien ça.
Ouais, c'est pas fou. Hein. Non, sinon ça va.
Sacha, journaliste bientôt sur le service public à France
Toujours,
Télé.
Toujours, depuis une semaine.
Ça y est?
Ouais, ça y est. J'ai
Alors, commencé. Ta première semaine?
Ça s'est bien passé.
Reviens, tiens, remonte ton micro.
Ah ouais.
Hop là, voilà.
Hop, ok. Non, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. Ouais, ils sont gentils à France Télé.
Ils sont très gentils, ils sont très bienveillants, c'est cool.
Et tu bosses sur le sport, si je dis pas de conneries.
Absolument.
Cool. Eh bien, ouais. Écoute, c'est super. Merci d'être avec nous ce soir, Sacha. On est aussi avec Latifa. Salut, Latifa.
Salut, Jean.
Tu vas bien?
Oui, et toi?
Bah, ça roule, écoute. Content de t'accueillir. Tu es la présidente de l'association Le Mouvement.
Oui, tout à fait.
Que tu peux nous représenter encore une fois?
Oui, Le Mouvement, parce qu'une nouvelle saison pour les gens.
Ah bah ouais, ouais, pour ceux qui découvrent.
Le Mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Donc, on mobilise à peu près. Là, on a une communauté de 200 000 membres à travers la France qui se mobilise sur des questions écologiques, sociales, fiscales, féministes, antiracistes, tout un programme.
Eh ben c'est très très cool de te retrouver sur le plateau de Backseat, Latifa.
Pareil.
Très content de te revoir. On est aussi avec Usul. Salut Usul.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Oui, la grande forme.
Usul, chroniqueur sur Blast, sur Backseat.
Ouais. Premier épisode de Rhinocéros qui sort dimanche.
Je sais pas ce que c'est.
Eh ben, ah, je t'avais pas dit le nom.
Mais non, tu m'avais pas dit le nom.
Pourtant, j'essaie de mitrailler à tout
c'est,
le monde.
C'était en référence à un célèbre livre ou
Exactement. Exactement.
Alors, il va falloir donner la ref là. Ah, bon.
Eugène Ionesco, Rhinocéros.
Voilà, t'as fait L toi?
Oui.
Non, non. Tu fais S.
Bon, t'as fait S. Bon, très bien.
Vous avez un super prof de français par contre.
Ah bah voilà. Bah, c'est une pièce dans laquelle les gens se transforment en rhinocéros au fur et à mesure. Au début, ça choque un petit peu parce que ils foutent le bordel dans les rues, ils piétinent tout. Et puis au fur et à mesure, bon, bah, après tout, maintenant ils sont là. Et puis il y en a de plus en plus. Et puis il y en a qui s'interrogent, peut-être qu'ils ont raison de se transformer en rhinocéros et de foutre le bordel. Et au final, il n'y en a plus qu'un qui ne veut pas se transformer en rhinocéros et pas suivre le truc. Donc c'est une métaphore, évidemment, d'une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 50. Donc on s'imagine de quoi ça peut être la métaphore.
Ouais, ouais.
Or, on est en train d'assister à de grandes métamorphoses dans le monde médiatique en particulier. Il me semble qu'on a atteint un point assez... assez crucial de ces métamorphoses-là. Donc on va essayer de chroniquer ça toutes les semaines pour Blast. C'est une chronique de critique média. On va parler des médias. Alors évidemment, on va commencer dimanche en parlant de Bolloré, de complément d'enquête. Et puis, on va continuer. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les métamorphoses de notre paysage médiatique.
Donc ça s'appelle Rhinocéros.
Rhinocéros.
C'est à retrouver sur Blast chaque semaine.
Exactement.
Et bah c'est cool.
Le dimanche. Voilà, la première, c'est ce dimanche.
Et bah c'est cool. Écoute, très content de te retrouver aussi sur le plateau de Backseat. Chers amis, ce soir, on voulait parler de l'actualité politique de ce beau pays. On voulait parler notamment de la rentrée sociale. Une loi qui commence d'ores et déjà à être discutée. Une loi dite « loi sur le plein emploi ». C'est la réforme de France Travail, la fameuse. Objectif affiché, 5% de chômage maximum en 2027. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Rappelez-vous, le président de la République, il y a quelques mois avant l'été, avait parlé de cet objectif qui était le sien politiquement avant la fin de son quinquennat. Il avait parlé de « à marche forcée » pour arriver jusqu'à cet objectif. Et ben là, le gouvernement prévoit de ne pas y aller de main morte. Réforme de Pôle emploi, les allocataires du RSA seront inscrits d'office à Pôle emploi. La mise en place d'un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi. Et le RSA pourrait même... être suspendu si le contrat n'est pas respecté, ce fameux contrat d'engagement, s'il n'est pas respecté. Ça hurle à gauche, la CGT dénonce un cauchemar technocratique et violent contre les chômeurs. Ça hurle aussi à droite, puisque les Républicains trouvent que c'est une loi qui ne va pas assez loin, qui est encore trop gauchiste. Ils souhaitent un durcissement en conditionnant l'éligibilité au RSA à un minimum d'activité. C'est même une ligne rouge, c'est Philippe Juvin qui a dit qu'il ne voterait pas cette loi tant que cette mesure-là ne serait pas dans la loi. Ça promet de belles heures au Parlement.
On l'avait reçu, lui, le médecin, là.
Le médecin, effectivement. Ah, j'ai oublié le jingle. Eh, petit jingle, c'est parti pour la lecture de la semaine. Elle est vachement bien faite, cette émission. Putain, on est des professionnels. Donc, voilà. J'ai présenté rapidement ce projet de loi, mais qui s'inscrit dans un... paysage social, celui de cette rentrée un petit peu particulier. Oui, on avait reçu Philippe Juvin qui est médecin, qui a été particulièrement célèbre au moment du Covid, puisqu'il est à l'hôpital Georges Pompidou, il travaille aux urgences, il est également maire, et il est plus député. Non, si, il est député, pardon, il n'est plus maire. Il est député Les Républicains.
Il n'était pas candidat à la primaire.
Il était candidat à la primaire des Républicains.
Ouais, c'est ça, ouais, ok.
Ouais, c'est ça. On l'avait reçu sur Backseat dans la première saison. Bref. Vas-y, Sacha.
L'amendement sur les 15 heures de travail pour conditionner le RSA a été adopté, a priori.
En commission.
Absolument. J'ai été sur le compte Twitter d'Éric Ciotti. Il y avait plein de ballons. C'est peut-être son anniversaire aujourd'hui.
Mon anniversaire, Éric Ciotti.
Non. ben voilà.
Et donc, adoption de cette. Donc, l'amendement a été adopté en commission. On est encore à l'étape de la commission. Le texte va arriver en séance publique. Il est possible que le gouvernement ait besoin d'avoir recours au 49-3 pour faire adopter ce texte. On verra les négociations.
Mauvais anniversaire à Éric Ciotti. je corrige.
Rentrée sociale, donc je le disais, une loi qui intervient. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet objectif du président de la République ? Le plein emploi. Quoi qu'il en coûte, à marche forcée. Et s'il faut taper fort, on tape fort. Oui, il n'a pas raison, président, de dire ça. Finalement, c'est bien le plein emploi, non ? Putain, c'est mon côté provoque, là.
En fait, on ne sait pas, Latifa et moi, on ne sait pas à qui tu parles.
J'attends le... vous savez, c'est la bonne franquette ici. Le premier des deux qui veut prendre, qui veut parler.
Bah oui, mais je ne veux pas lui griller la politesse.
Non, mais parce que franchement, je suis un peu, j'avoue, atterrée, là.
Mets des mots sur cet atterrement.
Ouais, c'est retour de vacances. Mais Non, mais c'est quel plein emploi, c'est toujours pareil. C'est enfin, on a très bien vu que le à marche forcée, est-ce que c'est... ça fonctionne vraiment, ça fonctionne sur un plan législatif, politique, etc. Mais auprès de la société, je suis pas sûre que ça passe beaucoup, cet autoritarisme. Ce qui m'interpelle dans cet amendement qui est passé en commission sur les 15 heures, etc., c'est que c'est pas comme si aujourd'hui, les gens qui sont allocataires du RSA ou du chômage, etc., ils n'étaient soumis à rien, à aucune obligation. Comme si, en fait, quand on est allocataire du RSA, il y a déjà des genres de critères à remplir, normalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste en face, il y a personne en termes de travailleurs sociaux ou de gens dans les CCAS, parce que l'action sociale voilà, dépend du département, mais c'est parce que les gens ils sont juste débordés et que c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de suivre un allocataire du RSA, l'accompagner, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc je veux bien en fait qu'il nous raconte ça, même si sur le principe c'est 15 heures, etc., je suis évidemment contre, mais il n'y a même pas en face des services publics et un service public qui va être à la hauteur de cette réforme-là. C'est ça qui est assez dingue. C'est qu'en fait, on voit toujours un côté et pas forcément l'autre. Et pareil pour les conseillers Pôle emploi, quoi, pour les gens qui ont déjà été au chômage. Je ne sais pas, un conseiller Pôle emploi, combien il a de chômeurs à gérer.
C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est qu'on veut regrouper sous le même service plein de services et leur filer des passerelles entre eux, alors qu'on voit déjà à quel point les services publics sont au bord du gouffre. Donc je me dis juste, moi, que ça va rajouter des embouteillages aux embouteillages qui existent déjà depuis des années, parce qu'il n'y a pas assez de conseillers Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas assez de ci, parce qu'il n'y a pas assez de ça, enfin...
Puis la CGT a raison de parler de cauchemar bureaucratique, parce que alors Olivier Dussopt a tenu à rassurer un petit peu, il a dit ces 15-20 heures là, ça pourrait être conditionné pas seulement à du travail, je sais pas quoi, ça pourrait être de la recherche d'emploi, donc il va falloir prouver qu'on recherche de l'emploi, ou même le suivi d'un parcours de soins. Alors ça c'est plus étonnant, mais pourquoi pas. La question c'est, mais qui va aller fliquer les gens un par un là ? C'est pour ça qu'on parle d'enfer bureaucratique là. Il va falloir encore, on va embaucher des gens pour suivre les... faudrait peut-être les embaucher directement en fait pour qu'ils suivent leurs copains. De toute façon ce pays voudrait foutre un flic derrière tout le monde et maintenant carrément aussi un fonctionnaire pour suivre qu'ils ont bien rempli leurs papiers, qu'ils ont bien fait leur truc. Et si tu prends, je sais plus qui avait fait ça il y a pas longtemps, de prendre les 7 pages là à remplir pour le RSA déjà, rien que le non-recours est impressionnant. Parce que moi, je les ai. Une fois, je me suis dit, tiens, j'avais plus de boulot. Je me suis dit, tiens, le RSA, je vais demander. J'ai fait, je vais travailler.
ça marche alors.
Ouais, ça marche bien. Ouais. Et j'ai fait, ouais, 7 pages. Et je sais plus qui avait comparé avec les 3 pages qu'il y avait à remplir pour avoir des exonérations.
Un député, c'est qui
Arthur Delaporte, voilà, qui comparait ça aux 3 pages qu'il y avait à remplir pour une entreprise pour avoir des exonérations d'impôts qui se comptent en centaines de milliers ou en dizaines de milliers d'euros. Voilà, il y en a qui fliquent et il y en a à qui on dit ah non, c'est important qu'ils soient libres, faut pas trop de contraintes. Bon, par contre, les pauvres, non.
Donc. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu largués sur tout le jargon qu'on est en train d'utiliser, je rappelle que le RSA, c'est le revenu de solidarité active, qui est un revenu auquel toute personne a droit dès lors qu'elle n'a rien d'autre. C'est le principe de l'absence de conditionnalité. En principe, c'est parce que tu n'as rien qu'on te donne un revenu minimum qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais qui est censé te permettre le minimum pour survivre. C'est ça la philosophie du RSA. Même s'il y a la différence avec le RMI, le RSA, il y a le mot activité dedans, crée des ponts qui essaye d'accompagner les allocataires du RSA vers une activité, fût-elle professionnelle. Une assurance chômage, c'est autre chose. Un chômeur qui touche des allocations chômage, c'est une personne qui touche ce pour quoi elle a cotisé et qui se retrouve dans la panade. C'est le principe d'une assurance, comme ton assurance bagnole qui paye la réparation de ton pare-choc quand tu as un pépin. Et ben, une assurance chômage, c'est une assurance qui te paye chaque mois parce que tu as cotisé à cette assurance par le passé, le temps que le sale coup qui t'arrive, le chômage, soit résolu et que tu retrouves une activité. Cette idée de mettre les allocataires du RSA à l'activité, c'est une idée qui avait été propulsé il y a quelques années maintenant, notamment par des présidents de conseils départementaux Les Républicains, qui voulaient lutter contre l'inactivité et contre le chômage en forçant les allocataires du RSA à travailler, à faire quelque chose. Et cette idée est reprise aujourd'hui jusqu'au gouvernement, donc dans son projet de loi. Enfin, l'amendement a été adopté, donc maintenant, c'est dans le projet de loi. D'ailleurs, on m'a dit que c'était en séance publique et pas en commission, excusez-moi. Je suis à la ramasse. Donc cette idée de faire des allocataires du RSA des chômeurs qui n'en sont pas, parce que le principe, c'est qu'a priori, si t'as le RSA, c'est que tu peux même pas travailler. En principe, c'est que t'es vraiment à la ramasse totale, quoi. C'est ça la philosophie particulière de ces dispositifs. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est profondément politique, éminemment politique, on va le dire. Ce dont on parle, puisque c'est la question interdit, de notre modèle de protection sociale. Oui, on a dit que c'est interdit.
Interdit.
C'est notre modèle de protection sociale. C'est notre modèle d'accompagnement vers l'activité et vers l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette séquence en parlant de ça. La volonté du président de la République, c'est le retour à l'emploi mais à l'emploi lequel et dans quelles conditions. Oui. C'est ça dont on discute. D'un maximum de gens pour que la France arrive à 5% de chômeurs et pas plus, c'est-à-dire que tout le monde travaille, en gros. 5%, ce qu'on appelle le chômage marginal, enfin bref.
Moi, je trouve que la communication, en fait, et le langage verbal, entre guillemets, est ultra violent dans le sens où, en soi, le plein emploi, ok, c'est un objectif qui me paraît plutôt sensé, entre guillemets. Mais le dire à marche forcée, voilà, disons que c'est un peu violent. Pareil, enfin, en soi, sur le principe, faire travailler des gens 15 heures par semaine qui sont au RSA, mais quand on leur dit c'est pour vous former, par exemple, ou c'est pour vous maintenir dans un système où vous allez garder un lien de sociabilité avec d'autres travailleurs, parce qu'on sait que le chômage, parfois, ça coupe aussi du monde, honnêtement.
C'est vrai.
Si on avait eu cette communication-là un peu plus, entre guillemets, bienveillante, moi, je l'entendrais d'une manière un peu plus positive, quoi.
Je vois ce que
là,
tu veux dire.
Mais là, dire en gros... vous glandez rien à longueur de journée, vous profitez du RSA, donc on va vous faire travailler, ce qui est sous-entendu depuis des mois un peu par le gouvernement quand même.
C'est même pas sous-entendu, c'est quasiment affirmé, voilà, mot à mot. C'est humiliant, c'est ça que tu veux dire?
C'est ultra humiliant et c'est ultra violent. Et alors que je pense que s'il y avait une autre communication, peut-être que certaines mesures auraient pu être un peu plus entendables, voire acceptables, quoi.
Usul,
il y a du travail à faire dans ce pays, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, on est mais il y a beaucoup de ces choses qui sont à faire dans ce pays, que ce soit des métiers du lien, des métiers de service, de plein de sortes de métiers, qui sont aujourd'hui remplis par des gens qui ne sont pas exactement dans l'emploi et dans le salaire. Les services civiques, aujourd'hui, qui vont remplir plein d'endroits où avant il y aurait peut-être eu des fonctionnaires, en fait. C'est un exemple. Les apprentis, qui sont pas encore vraiment engagés, mais qui travaillent, en fait, correctement. Alors là, d'ailleurs, c'est génial, on a moins de chômeurs, mais évidemment, il y a plus d'apprentis. Donc, on a un statut, pareil, c'est des gamins, hein. C'est des gamins qui sont évidemment moins bien formés. On sait aussi qu'ils meurent plus, hein, sur les chantiers, sur les machins. Bon. Et en fait, là, ça va être une nouvelle catégorie, les gens au RSA, qui eux aussi vont travailler, vont faire des trucs sans toutes les garanties du statut de salarié et qui donc du coup vont faire que ces emplois dont on a besoin ne seront jamais créés non plus. C'est-à-dire que c'est étonnant de penser que en fait vous voulez pas moins de chômage, vous voulez moins de le chiffre du chômage là, hein, pour les assurances chômage, vous voulez moins donner de RSA parce que ça va exclure des gens du dispositif tout simplement. Donc c'est une mesure qui est encore une fois un nouveau cadeau fait à ceux qui ont besoin de main-d'œuvre. C'est une nouvelle forme de main-d'œuvre précarisée, de main-d'œuvre souvent maltraitée, parce qu'on n'est pas encadré pareil, parce qu'on bénéficie pas des mêmes protections que si on avait un salaire, un contrat de travail, etc. Je ne sais pas. Alors là, le plus étonnant, c'est que dans quoi ils vont travailler? Ça va être quoi ces heures d'activité?
Ça, pour moi, c'est vraiment l'énigme. Pour avoir travaillé dans des mairies, dans des départements.
Il y a un truc idéologique. À la base, il y a un truc idéologique qui est la vision macroniste de il faut mettre les gens au travail, absolument, c'est idéologique. Et bon, alors quoi? On verra après. Et les effets délétères? On verra après. Les études d'impact? On n'en a pas fait, etc. Donc c'est toujours pareil. C'est ça la marche forcée aussi.
Quand tu dis qu'il y a du travail à faire dans ce pays, c'est particulièrement vrai. Il y a probablement besoin d'ailleurs de formation professionnelle. Tu l'as dit, les métiers du lien. Combien de fois on l'a dit sur ce plateau, ça embauche et ça va embaucher à balle dans les années qui viennent. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, tous les métiers du care, l'aide à domicile, l'aide à la personne, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, etc. Rappelez-vous, quand on avait fait une émission où on parlait des EHPAD au moment du scandale Orpea. On avait parlé de ça, de ce besoin d'embaucher, la transition écologique, il y a combien de gens qui ont, enfin, il y a combien de boulots à pourvoir pour poser du photovoltaïque, pour accompagner des transitions, pour poser des pompes à chaleur, etc.
Les crèches, tout.
Et là, je n'ai même pas encore parlé du service public, où on vient de faire un before, on a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé de l'école, on pourrait parler effectivement.
On a besoin de bras, on a besoin de gens dans l'école aussi.
On a besoin de gens dans l'école, on a besoin de gens dans les services publics et dans beaucoup
Vous croyez
de...
que tous les profs là qui manquent, aujourd'hui, parce que les postes non pourvus, là, c'est des gens au RSA qui sont en train de glander et qu'il va falloir mettre au travail pour qu'ils deviennent profs vite. Vous croyez que c'est ça, ce qui manque, là, pour remplir les postes à pourvoir?
Donc effectivement, alors ça c'est pour la question sur ce projet de loi, mais il y a aussi la question que je voulais vous poser, c'est celle de la rentrée sociale. Elles sont où les manifestations monstres pour lutter contre ça? On est dans un parcours particulier. Rappelez-vous, pardon, n'ayons pas la mémoire courte, l'an dernier, mobilisation massive contre la réforme des retraites, plusieurs millions de personnes dans la rue, une mobilisation qui n'est pas parvenue à faire reculer le gouvernement. Est-ce que c'est ça qui explique la difficulté qu'ont les organisations syndicales et ou politiques à mobiliser contre ce projet de loi? Latifa, t'en penses quoi?
Oui, de toute façon, c'est mécanique. C'est toujours difficile de remobiliser après une grosse période comme celle-là, surtout que c'est terminé par une défaite. Une défaite dure, hein, franchement, une défaite super dure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient au début, etc., sur la mobilisation, qui étaient super motivés. Et donc forcément, après, ça fait mal et c'est compliqué de se relever de ça. Et puis, il y a aussi le fait que, oui, c'est dur de mobiliser, qu'avec l'inflation, les gens sont dans d'autres urgences aussi. Et que, je pense qu'ils ont compris la même chose que Macron, évidemment, c'est que de toute façon, il va y aller. Il va y aller, comme il a dit, à marche forcée, donc il va le faire. Et puis, il l'a déjà prouvé par le passé, en fait, qu'il n'en avait rien à faire de ce que les Français disaient, de ce que les revendications de la rue faisaient remonter. Donc, c'est dur de mobiliser dans ce contexte-là, en vrai. C'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que c'est... Pour autant, je vais dire que c'est inexplicable de se dire qu'on a un tel degré d'inflation, qu'il y a tellement de gens qui souffrent, etc. Et qu'on a vraiment l'impression que les gens subissent. Vraiment,
et pourtant,
subissent, quoi.
Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un appel à la mobilisation qui soit non plus aussi intense que pour la réforme des retraites. Hein. Enfin, vraiment, je pense que ça vient aussi des organisations syndicales. Je ressens pas un élan comme on a pu le sentir.
Parce qu'il y a les élections professionnelles bientôt. J'en sais rien, je sais pas. C'est une vraie question. Alors même que, et on l'a déjà analysé sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a un phénomène de retour des corps intermédiaires et notamment des syndicats. Je regardais les chiffres, par exemple, de la participation des salariés du privé aux élections professionnelles. On est passé de 38% à 43%. Les gens votent plus qu'avant aux élections professionnelles. Les mobilisations contre la réforme des retraites étaient des mobilisations monstres qui, à la différence des Gilets jaunes, étaient organisées par des organisations syndicales, etc. On avait reçu Sophie Binet sur ce plateau, on avait même parlé de la hype CGT avec la casquette, etc. C'est anecdotique, la casquette, mais ça dit quelque chose d'un retour en force du syndicat usul. Tu avais même un exemple à l'étranger avec Biden, je crois.
Non, c'était pas moi qui devais parler de Biden.
Mais si, c'était toi.
Non, oui, c'est Biden sur le piquet de grève.
Oui, c'était toi.
Première fois qu'un président américain est sur un piquet de grève pour les ouvriers de l'automobile. Voilà, qui a dit que c'était les ouvriers qui avaient construit les États-Unis en mode merci pour l'info. C'était incroyable. Je savais pas, je me suis dit waouh, un cours d'histoire.
On n'a jamais vu un président des États-Unis.
Oui, c'était les bourgeois avec leur
ouais. Franchement, oui, le capital.
Mais jamais un démocrate avant lui était allé jusqu'à...
Mais jamais un président américain.
Bah ouais,
un président américain, ouais, a fortiori démocrate, était allé sur un piquet de grève. Donc c'est vraiment...
Bon, c'est de la com', hein, mais...
Mais
c'est de la com' qui dit que, ah tiens, c'est ce message-là qu'il faut envoyer aujourd'hui, de dire on est proche de ces organisations syndicales. Il y a en effet un retour en hype, y compris aux États-Unis, c'est vrai.
Mais c'est le deuxième mouvement de masse depuis le début de l'année aux États-Unis, puisque vous avez aussi les scénaristes à Hollywood qui font grève depuis... qui ont fait grève pendant des mois. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'ouvrir les discussions pour régler le problème, mais c'est un pays qui a pas non plus énormément la culture entre guillemets de la mobilisation de la mobilisation syndicale, mais quand ils le font, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que chez nous, pour le coup. Bah, c'est beaucoup plus massif, c'est beaucoup plus paralysant, et ça a beaucoup plus de conséquences positives pour les travailleurs que chez nous.
Ouais, bah, c'est surtout que là, en fait, même si, voilà, c'est de la communication et tout, ça rappelle quelque chose dont on, bah, que peut-être nous on a moins ou qu'on oublie, c'est de dire aux gens, vous avez le pouvoir, en fait. De dire aux ouvriers, de dire aux personnes qui manifestent, ouais, le pouvoir, il est, c'est vous qui l'avez. Et c'est parce que c'est vous qui êtes à bas. Quand il dit, voilà, c'est vous qui avez construit les États-Unis, etc. Mais, juste de rappeler ça, mais effectivement, ouais, la grève aussi des scénaristes, elle était massive, parce que quand ils s'y mettent, ouais, ça, bloque vraiment tout, même si ouais quand même, oh, on est français, on est en train de dire ça des Américains.
Sacha, non, ça... t'as essayé de nous expliquer qu'on faisait trop grève ici.
Hein, ouais, là, c'est,
comme, par hasard.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Et d'ailleurs dans le chat, il y a des gens qui disent que il y a eu une victoire aux États-Unis du syndicat en question, là celui auquel Joe Biden.
Parce qu'on oui, on pourrait penser
les
l'inverse.
Les scénaristes hein. C'est terminé d'ailleurs.
On pourrait penser l'inverse. On pourrait dire, on fait pas assez grève ici. On fait des petites journées d'action, on fait des manifs. Au contraire, la grosse grève qui bloque le pays comme sont capables de le faire les routiers, etc., on l'a même pas commencé, là, pour
mais
les retraites.
C'est ce que ben ont oui, regretté les syndicats voilà. pendant exactement. La réforme des retraites. C'est
donc
qu'on
on
a...
fait pas. Attends, c'est ce qu'ils regrettaient.
Ils n'ont pas été capables de paralyser, entre guillemets, le pays, alors que c'est ce qui était voulu au début, quand même.
Philippe Martinez était venu sur ce plateau ici nous expliquer, vous êtes gentils les enfants, c'est un chouïa plus compliqué que ça.
Oui.
Bloquer le pays, ça se décide pas en oui. claquant des doigts, les gens sont à la...
Il n'y a pas de gros bouton de la grève générale.
Oui, c'est ça, tu l'imites très bien.
J'ai pris la moustache, là.
Non, voilà, il nous disait, oui, c'est facile de hurler sur Internet à la grève générale, mais ceux qui vont la faire, la grève générale, c'est des gens qui ont déjà pas assez de pognon pour bouffer, c'est des gens qui sont à la ramasse, c'est par ailleurs des solidarités qui sont très difficiles parce que c'est plus comme avant les usines où il y avait énormément de gens qui pouvaient se mettre en grève et tout, maintenant c'est des intérimaires, c'est des gens enchaînés ouais. dans des boîtes qui sont pas les mêmes et tout, c'est complexe, et les rares oui, tentatives de blocage de dépôts pétroliers et tout... on a vu que ça prenait du temps et que ça demandait de l'énergie à des gens. Et c'est rare.
Et puis la CGT était toute seule en plus sur le coup du blocage. Quoi. La CFDT suivait pas.
Et la CFDT suivait pas par ailleurs.
Les forces suivaient donc, à peine.
C'est facile d'appeler à la grève générale. C'est plus difficile de la faire.
Mais il faudrait déjà appeler. Parce que là ils n'ont pas appelé.
Mais appeler...
Alors il y a toujours le truc de...
C'est toujours pareil, appeler.
Oui, mais appeler. Bah oui, mais en effet, ça ne va pas se faire si les centrales syndicales ne soutiennent pas. Alors peut-être que la CGT serait toute seule dans les liens, il n'y aurait pas la CFDT, mais enfin, il y en a d'autres. Et puis surtout, il y a des travailleurs, même pas syndiqués. Il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, je pense aux salariés de l'entretien dans les gares, de l'entretien honnête, où il y a eu une grève aussi il n'y a pas longtemps. On pensait à la fameuse grève de l'Ibis des Batignolles qui nous a donné Rachel Keke, députée, mais qui a aussi été une victoire syndicale de gens qui, à la base, en effet, ont des conditions de travail très difficiles, ont pas beaucoup de pognon, mais avec la solidarité, avec le soutien, avec je veux dire, partir du principe qu'on peut pas y arriver, c'est pas parce que les secteurs sont des secteurs où les gens sont pauvres, un peu précaires, etc., que au contraire, c'est eux qui ont le plus besoin de faire grève et de faire augmenter leur conditions de salaire. De toute façon, les salaires, on a un vrai problème là parce que il y a une smicardisation. Si vous voulez, ils ont multiples. À chaque fois qu'il y a un peu d'inflation, on ajuste un peu le SMIC. Le problème, c'est que les entreprises n'augmentent pas les salaires avec la même vitesse. Ce qui fait que alors je sais plus les chiffres, je crois que j'ai lu, il y avait 12,5% des salariés en France qui étaient au SMIC jusque-là, donc le salaire le plus bas possible. Aujourd'hui, on est monté à 14 et quelques. Donc pourquoi ? Parce que ça y est, il y a un écrasement. On monte le SMIC, mais les autres montent pas les salaires au-dessus. D'où le fait qu'il va y avoir une grande conférence sociale là, il y a dans pas longtemps. C'est-à-dire concrètement, même d'un point de vue symbolique, les gens voilà se tombent au SMIC, enfin tombent. Il y a une baisse de niveau de vie.
Est-ce que
ça va falloir faire quelque chose, ça peut pas être infini en fait.
Et c'est pour ça justement que moi j'essaye d'analyser le pourquoi du comment. Est-ce que ça ne débloque pas une situation. C'est ça que j'essaie de comprendre. Je suis complètement d'accord avec les attendus, la nécessité, etc. Ça, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, y compris dans le chat comme d'habitude. Donc ok, mais comment ça se fait que le mouvement des gilets jaunes a pu être déclenché sur une augmentation de taxe carbone sur le prix de la pompe au carburant et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, alors que le carburant est encore plus cher, que l'inflation est en train d'exploser. Ah oui. Que les gens sautent des repas, etc. Qu'est-ce qui explique cette difficulté qu'a le mouvement social ? Alors, est-ce que c'est... Alors, on a vu Jean-Luc Mélenchon lors de notre première émission de l'année.
Abattez la citadelle !
Faut abattre la citadelle.
Mais avant ça, il a expliqué que c'était aussi à cause de l'intersyndicale qui avait refusé de créer des espaces de discussion avec les partis politiques. Sophie Binet lui a répondu très sèchement en lui rappelant l'indépendance des syndicats. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est parce que Jean-Luc et les syndicats, ils n'arrivent pas à se parler ?
C'est parce qu'on n'avait pas le livre de théorie révolutionnaire dont on avait besoin. Mais là, il vient de sortir, ça s'appelle Faites mieux.
Ah, c'est bouquin le bouquin de Jean-Luc.
C'est bon, on a la théorie maintenant, il suffit d'y aller. Mais faut lire le bouquin, quoi, c'est 300 pages.
Ah, c'est con.
C'est sorti aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de le
lire. Nouveau bouquin de Jean-Luc Mélenchon, bah, peut-être que ça va donner la clé à ce mouvement-là. Mais force est de constater que la gauche et le mouvement social est très faible. Face à un gouvernement qui, du coup, se retrouve à pouvoir négocier assez tranquillement avec les Républicains un amendement de plus pour aller dans la direction. Du coup, ça pose la question, est-ce que les Républicains vont la voter, cette loi? Maintenant que leur amendement est dedans, est-ce qu'ils vont faire ce cadeau-là, Emmanuel Macron? Est-ce que... Honnêtement, je sais pas. Et personne ne le sait non plus.
Moi non plus, hein. Je parle pas avec eux, de toute façon. J'ai pas de renseignements.
Ben, moi, faut qu'ils m'expliquent parce que je suis vraiment curieux. En tout cas, on va continuer à suivre ça. Le projet de loi est en cours de discussions, et puis de toute façon là on va rentrer dans les négociations budgétaires parce que je vous rappelle qu'à l'automne, comme chaque année, c'est le moment où les députés, les sénateurs et le gouvernement travaillent, négocient et votent le budget de l'année suivante, et donc c'est là qu'on parle des prélèvements obligatoires, des dépenses dans les différents ministères.
Et oui, ça, c'est aussi la saison des 49-3.
Et du coup, les 49-3 vont arriver. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de 49-3. Il y en a déjà eu l'année dernière. Les choses n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc, il y en aura à nouveau. Il ne faudra pas faire semblant d'être surpris. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas.
Là, il y en a eu un.
Il y en a déjà eu un.
Il y en a déjà eu un sur la loi de programmation. Sur la loi de programmation, ouais, dans le cadre des 40 milliards d'euros du plan de relance européen. Donc, il y en a déjà eu un premier. Mais c'est la saison. Ça va arriver.
49-3 d'ouverture, quoi.
Exactement. Et merci à la personne qui vient d'offrir 20 subs. C'est très généreux.
Avant les 10 autres.
Ouais, voilà, c'est ça. Elle commence.
On se chauffe. On va en reparler sur ce plateau des 49-3 parce qu'il va y en avoir à nouveau. Mais quelle est la bonne stratégie face à ça? Est-ce qu'il faut continuer à déposer des motions de censure qui ne sont pas votées? Etc. Etc. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre sujet dont je voulais parler avec vous, c'est celui de la planification écologique. Ça y est, Emmanuel Macron, c'est le grand planificateur. C'est le retour de la planification avec les annonces le 25 septembre. Donc, lundi dernier, de ce plan d'action à la française sous l'égide d'Antoine Peillon, donc le secrétaire général de la planification écologique. Un énorme plan très ambitieux qui vise à planifier le virage écologique. Est-ce que ça y est, Emmanuel Macron est au rendez-vous des attentes des associations, des climatologues?
Mais tu dis pas à qui c'est la parole.
Non, parce que moi, j'ai toujours vu la publicité, enfin la pub, non, si, c'est la pub de Macron, Make Planet Great Again. Qui se souvient de ça.
Ah, le héros de la Terre, le champion de la Terre.
Ouais, voilà. Et ce truc de planification écologique, ça fait combien de mois qu'on en entend parler?
Ça a été promis pendant la présidentielle.
Tellement longtemps pour, je sais pas, pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Je suis pas une spécialiste de l'écologie, mais on en a tellement.
Lui non plus.
Ah bah ouais, franchement, mais oui, c'est non, c'est pas possible non plus. Enfin,
et puis, il faut attendre de voir ce qu'il y a dans ce plan, mais c'est pas Emmanuel Macron qui disait il y a quelques semaines, voire mois, qu'au niveau de l'Union européenne, il fallait mettre un peu sur pause la planification écologique.
C'était sur les mesures européennes, voilà. Effectivement. C'était avant la présidentielle. Il avait dit on va.
Avant la présidentielle.
Ou alors entre la présidentielle et la législative, dire il faut mettre sur pause.
Ah, déjà?
Ouais, ouais.
Ah, vraiment?
Mais je crois, ouais.
Ah, vraiment? Pour moi, c'est plus récent que ça.
Ah, ouais?
Ouais. Oh. Ah, le temps, ça passe vite, hein. Ça passe vite à vos côtés.
Non, mais remarque, t'as peut-être raison, en fait.
Pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, encore une fois, la communication colle pas vraiment avec ce qu'il faudrait faire vers ce quoi il aimerait se diriger. Enfin.
Bah, vous avez retenu la grande mesure, quand même, des annonces, là.
Vas-y.
Non, bah non, c'est normal parce qu'il n'y en a pas. c'est encore une fois, c'est un catalogue de on va faire un peu de ci, on va faire un peu de ça. Et puis bon, bah, tous les spécialistes disent en fait, il n'y a pas de changement de modèle de toute façon de prévu, donc il n'y a pas grand chose à attendre. On va garder. Voilà.
C'est toujours pareil, oui.
Oui. Et bah oui, mais bon. Oui, mais ouais, voilà, par exemple, il y a un article que j'ai vu, une tribune dans Le Monde, là, de quelques scientifiques, peut-être qu'on posera la question tout à l'heure à la ministre, qui appelait à faire une sorte de plan Manhattan de l'écologie, en disant, en fait, donnez-nous déjà, je sais plus combien il demandait, 1 milliard, je crois, c'est pas énorme, hein. Il disait, donnez-nous déjà 1 milliard, parce que là, apparemment, il y a 40% des technologies dont on aurait besoin pour faire cette fameuse transition écologique et l'amorcer correctement. Le plan Manhattan, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, c'est à un moment, tu mets les mecs dans une chambre, tu dis, il faut trouver. Vous avez du pognon, on
quel
vous donne
film incroyable,
des moyens. Et non seulement on veut les chercheurs, là, les chercheurs fondamentaux, là, machin, puis on veut des ingénieurs, vous allez m'appliquer ça. On veut des industriels, on veut tout ça ensemble. Et vous me faites, à grande échelle, un vrai plan. Vous avez... carte blanche.
Et l'anecdote, c'est que le plan Manhattan, c'était pour faire une bombe.
Alors là, c'était pour faire. Et c'est ce que disent les gens, les chercheurs de la tribune. Ils disent, on a été capable de le faire pour la bombe atomique, en l'occurrence les États-Unis. Ouais. Mais là, il y a un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. pourquoi on n'a pas la même chose avec les moyens de l'État, en l'occurrence, hein, le plus grand défi de l'humanité, on n'est pas capable de dire allez, là vous avez carte blanche, vous avez un gros budget et on y va.
Ouais, mais attends, parce qu'il y a quelqu'un qui te le dit dans le chat et je suis d'accord. Est-ce que c'est pas un peu du solutionnisme technologique, ça? Est-ce que c'est pas attendre des ingénieurs et des scientifiques qui trouvent des solutions?
Il va falloir quand même en trouver quelques-unes. Et si apparemment toutes les technologies dont on a besoin, là c'est pas pour.
Je suis pas sûr.
Là c'est
ça,
pas juste pour encaisser. Pour en fait voilà le solutionnisme technologique est en général l'argument de c'est quand on veut que rien ne change. En disant, on peut ne pas changer notre modèle grâce à la technologie, parce qu'on va trouver, regardez, à un moment, on a cru que Paris allait être enseveli sous les crottes de cheval, et puis en fait, on est tellement géniaux que finalement, il y a eu la voiture, et maintenant, il y a de la pollution. Donc c'est génial, et puis au bout d'un moment, on va bien trouver, voilà, c'est ça le solutionnisme technologique. Par la technique, on pourra garder la même société, le même modèle d'exploitation, le même modèle de croissance infinie, etc. Là, c'est pas ça. Là, c'est juste sur quelques trucs, quelques postes de Oh, il l'explique mieux que moi, mais moi, c'est bien, je suis pas scientifique, moi. Moi, j'ai fait elle.
Non, mais là, il est sur.
J'ai même pas vu le film Oppenheimer.
Moi non plus, pas encore, mais non.
Bah, allez le voir, il est génial.
Mais oui, j'ai vu Barbie, moi.
Mais moi aussi.
Génial aussi.
Pardon, Latifa.
Non, parce qu'il y a déjà des solutions sur notre mode de vie, sur la manière dont on doit consommer, sur la manière dont on doit se déplacer, qui existent, etc. Et c'est pas comme si, il y avait pas déjà plein de scientifiques qui préconisent ce qu'il faut faire en termes de vraiment. Mais là, c'est parce que, c'est un virage aussi sociétal qui est à prendre. C'est dans les mentalités, c'est plus large que ça. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a déjà des choses qui existent. C'est juste que pour des raisons capitalistes, économiques. Il va pas y aller en fait, et il est pas le seul comme chef d'État.
Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que encore une fois, je suis d'accord pour qu'on fasse travailler les scientifiques, les ingénieurs, pour qu'ils trouvent des solutions. Je dis juste que les scientifiques, les ingénieurs, en général, ils se retournent vers nous en disant, mais en fait, c'est à vous de changer, les gars. On vous explique en long, en large, en travers, arrêtez de polluer. Arrêtez d'utiliser des bagnoles qui polluent. Oui, mais c'est compliqué parce que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, etc. D'où ce plan qui a été présenté par le gouvernement, qui vise à accompagner la transition vers des véhicules à basse consommation, des trucs. Énormément d'argent sur les RER métropolitains. Depuis le temps qu'on réclame la réouverture des petites lignes, etc. Ça y est, il va y avoir des RER métropolitains dans les grandes métropoles qui vont se développer. Ça va prendre des dizaines d'années. Ça va être long et compliqué. C'est pour ça que je suis d'accord. Un plan de transition écologique, c'est rarement très sexy et ça tourne rarement autour d'une grande mesure qui claque. C'est souvent énormément de petites choses qui sont censées accompagner vers un changement de société. Mais ce changement de société doit-il être fait de manière brutale et imposée d'en haut? Honnêtement, je pense pas. Les gilets jaunes nous ont déjà donné la réponse.
Oui, mais c'est convenu.
Mais pas convenu.
Ce qui est brutal, c'est les étés qu'on est en train de vivre. Ce qui va être brutal, c'est quand on va manquer de bouffe. Ce qui va être brutal, c'est le renchérissement du prix de l'énergie. C'est que les gens vont plus pouvoir de toute façon faire le plein de leur bagnole. C'est ça qui est brutal. C'est pas les changements qu'on va de toute façon devoir faire. Donc autant justement, vu que le changement, en effet, c'est un changement de modèle, il faut commencer le plus vite possible.
Mais ça dépend sur qui repose l'effort. Et c'est toujours le même problème. C'est d'abord les pauvres qui vont douiller. Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on y aille mollo et qu'on fasse attention à la manière et sur qui on fait reposer le truc.
Et le manque d'eau aussi, ils le disent dans le chat, c'est vrai, le manque d'eau.
Le manque d'eau,
c'est brutal, le manque d'eau.
Tous les gens qui vont quitter aussi, qui vont devoir quitter leur pays et tout, à une échelle plus internationale. Sure. Mais après, il y a des mesures. Elle n'était pas dans la planification écologique, elle a été annoncée un peu avant. Et pour le coup, au mouvement, on était content parce qu'on avait fait campagne là-dessus, sur une idée de passe ferroviaire, en fait, à moindre coût. Et normalement, l'été prochain, les gens pourront prendre, hors TGV, en tout cas tous les TER et les trains, un prix fixe de 49 euros par mois, si ça reste là et si ça passe comme ça. Et ça, c'est une mesure plutôt positive et qui tend à réunir les impératifs écologiques et aussi sociaux, juste pour les gens. Il y a plein de gens qui vont sûrement pouvoir partir en vacances, pas prendre leur caisse et voilà. Mais c'est juste que oui, ça reste possible. Mais après, pour les transports en commun, ça risque d'être long.
Et quel est
et ça reste toujours cher parce que Valérie Pécresse, elle veut que augmenter. Encore annoncé ça.
Ouais, puis elle nous met des punaises de lit aussi.
Non, faut pas parler de ça. Faut parler de ça, sauf que je vais me lever de cette chaise dont j'ai remarqué qu'elle était en tissu. Tout va bien.
Ça se trouve, il y en a dans les micros.
Ah non, ta gueule.
Non, et le prix de l'inaction aussi, quoi. C'est-à-dire que le mur, on va se le manger dans la gueule et ça va coûter très cher. Et pas seulement en pognon, hein, mais je veux dire en vie humaine, en vie brisée, en gens qui vont devoir bouger, déplacer, en déplacement, etc. Moi, je suis très pessimiste sur tout ça. Parce que, encore une fois, voilà, de toute façon, le principal truc qui est reproché à Macron, c'est que tu nous dis, y a une planification, mais il dessine pas vraiment un chemin vers cette société. Qu'on a de toute façon, là j'ai envie de dire, par contre là il y a peut-être une responsabilité aussi de la gauche, une responsabilité partagée, on ne sait pas ce que c'est que cette société,
mais non,
vers laquelle
non.
on va. On sait que c'est une société un petit peu de la modération, de la sobriété, peut-être du bricolage, du recyclage. Il va falloir arrêter de jeter, il va falloir consommer différemment, en effet, produire différemment,
ça, plus
produire les mêmes choses. Ouais. Va falloir, en effet, décapiter les riches, etc. Donc, c'est les fondamentaux. Mais qu'est-ce que ça prend culturellement comme forme, cette société? Comment on le vend?
C'est un problème historique des écolos qui est en train de devenir un problème historique de l'ensemble de la gauche. Okay. Sur effectivement la projection dans un imaginaire désirable, je rajoute le mot désirable, qui doit donner envie. Et c'est pas simplement hurler à la catastrophe écologique, à la catastrophe sociale, etc. C'est aussi tracer des pistes d'un truc dont les gens doivent avoir envie. Mmh. En disant, putain, ce sera mieux demain. Mmh. Et ça, la gauche n'arrive pas à le faire. Donc pour l'instant, c'est essentiellement la droite et Emmanuel Macron qui parviennent à tracer un demi-imaginaire qui est beaucoup plus recroquevillé sur chacun.
Ils n'ont pas d'imaginaire non plus. Enfin, ils ont un imaginaire du XXe siècle.
Sur la technologie accessible pour tout le monde, sur un truc où c'est au niveau de l'unité de ta famille ou de toi-même, tu vas pouvoir avoir accès à des trucs mieux, etc. Mais c'est pas un imaginaire social et collectif, ça c'est sûr. De toute façon, ce n'est pas des collectivistes. Hein. C'est pas le grand soir, ça n'a jamais été promis par la droite, ils n'en veulent pas. Donc du coup, mais je suis assez d'accord avec toi sur cette difficulté de projeter des imaginaires auprès d'un électorat qui en plus a tendance à se sectoriser de plus en plus et c'est un vrai enjeu.
Je disais, on parlait de discours coercitif tout à l'heure, le discours de la gauche et surtout des écolos sur ce qu'il faut faire ou pas est quand même assez... peut-être pas coercitif, mais c'est ne faites pas ça, quoi. Ne faites plus ça. Et aller dire à la personne qui cherche un boulot et qui ne peut plus prendre sa voiture, je pense que le discours, il ne rentre pas. Hein.
Et quand est-ce que tu as entendu un écologiste dire à un chômeur qui cherche du boulot, par contre, tu ne prends plus ta voiture?
Non, mais bien sûr, mais je te parle du discours global. C'est des trucs coercitifs.
Oui, mais il ne faut pas inventer des situations.
Mais les gens le prennent pour eux.
Non, par contre, on peut dire à des bourgeois, arrête de prendre ton jet. Mais vraiment, tu vois, ou arrête. Le yacht, c'est plus possible. Je suis désolé. Voilà, mais c'est plutôt des trucs comme ça que de demander aux prolos d'arrêter de prendre la voiture pour aller travailler.
Non, mais il faut qu'on arrête de prendre des voitures. Ça ne concerne pas que les milliardaires et les gens qui ont des jets et des yachts.
De toute façon, il n'y a pas à leur demander. Il y a à construire une alternative.
Ben voilà.
Tu construis l'alternative et ils vont...
Il n'y a pas d'alternative de proposer pour l'instant, à part la voiture électrique qui coûte un prix indécent.
Mais non, voilà, donc il faut déjà, en effet, travailler sur ces alternatives, parce qu'en effet, on ne peut pas juste interdire des trucs, donc il faut proposer autre chose. Ouais.
Donc les RER métropolitains.
Mais c'est vrai que l'imaginaire écolo, manger des graines, tout ça, machin, moi-même non plus, ça ne me parle pas de ouf, le djembé, machin,
Bon, Sarouel.
Moi, voilà, l'imaginaire saucisse Roussel, non plus.
Mais c'est
quoi l'imaginaire de la gauche comment on se projette? C'est vrai que c'est difficile, la gauche.
Est-ce que tu vas arrêter les barbecues ou pas?
Moi, j'aime bien les barbecues. Moi, j'aime bien ça. Je mange plein de viande. Bon, c'est vrai. J'essaie de baisser un peu quand même, parce que quand même...
Oui, non, mais moi aussi. Ouais.
Oui. Mais bon.
Ils se sont attaqués, là.
Il faut bien que j'envoie des photos à Sandrine Rousseau de trucs, quoi.
Mais je suis absolument d'accord. Et c'est intéressant, parce que ce que tu dis est assez vrai sur des gens qui se sentent... J'en ai parlé à Sandrine Rousseau quand je l'ai vue cet été à l'université d'été des écoles. Elle me disait, putain, quand tu parles des barbecues, tu touches à quelque chose qui est beaucoup plus profond que seulement le barbecue. Et effectivement, il y a des gens qui le prennent comme une attaque d'une virulence inouïe.
Et quand Emmanuel Macron nous dit « j'aime la bagnole », à votre avis, il s'adresse à qui?
Justement, à cette classe-là qui se sent
attaquée. Exactement.
Exactement.
Là, la com est rodée pour le coup.
En plus, pardon, mais c'est même pas vrai.
Mais non.
Dire, Emmanuel Macron n'aime pas la bagnole. François Fillon adore la bagnole. Ouais. C'est un passionné de course automobile. Les gens le savent et tout. Bon, là, Christian Estrosi, il a fait de la moto Grand Prix quand il était plus jeune. Bon, il y a des gens. Emmanuel Macron, toi, la bagnole?
Il aime bien avoir un chauffeur, quoi.
Non, mais voilà, à quel moment t'en as quoi que ce soit à faire?
Il aime les belles berlines noires là, qu'ils ont, là, les puissants, là, avec des chauffeurs devant. Ça, il aime bien ça.
J'aime la bagnole, j'aime le jeu vidéo à chaque fois. Attends, arrête d'être insincère, c'est chiant. T'es pas obligé de dire ça. Enfin non, mais c'est oh là là.
Assume, t'aimes le jet, mec.
Ouais.
Et le jet ski.
Et voilà, le jet ski. Voilà, le jet ski. J'aime le jet ski. Bah ça, t'en fais tous les étés au fort de Brégançon. Bon bah très bien. Voilà, ça t'as le droit de le dire. On te voit le faire. Mais la bagnole, non. Emmanuel Macron, tu n'aimes pas la bagnole. T'es pas Villebrequin. Arrête. Non mais c'est vrai. Bref, autre sujet que je voulais aborder avec vous. Une visite extrêmement symbolique et hautement politique, la visite du pape. Le pape est venu à Marseille pour une visite. Il a fait une messe au stade Vélodrome.
Meilleur stade de France.
Ça y est, tu l'as dit. Et sa sainteté, le pape François, que vous voyez ici à l'image, au bras d'Emmanuel Macron, est venu pas pour rien à Marseille. Il voulait venir dans une grande ville méditerranéenne, une ville historique méditerranéenne, pour parler d'un sujet particulier, c'est celui des migrations et de l'accueil des réfugiés. Et c'est cette tonalité particulière de la visite du pape qui en a fait une visite qui a un petit peu fait bugger une partie du paysage politique. Je vais le dire simplement, le pape François s'est fait accuser d'être un gros gauchiste par toute une partie de la droite et de l'extrême droite que l'on pourrait attendre à être plutôt papiste, en tout cas plus que la gauche. Et donc, mon sens de l'ironie a été chatouillé quand j'ai vu une partie de la gauche applaudir des tonnerres d'applaudissements au propos d'un pape et une partie de la droite dire que c'est un pape de merde, qu'il a rien compris, qu'il est tout nul, etc.
Ah ouais, il est argentin, il a dit Bardella.
C'est fou parce que le pape a réussi à retourner complètement l'échiquier politique en une messe.
Il est fort.
Voilà.
Il a pas fait qu'une messe, il a parlé un peu avant.
Et tout.
Non, mais de toute façon, il est venu avec un message, il est venu en mission. Il est venu nous apprendre, enfin nous rappeler le témoignage du Christ, tu vois, quand même, c'est pas de la merde. Et les autres sont là, c'est vrai que voilà, il y a un danger aussi avec ce truc là. Moi j'avais écouté l'émission de C'est ce soir, ils ont fait une émission dessus, c'est avec Karim Rissouli, c'est une super émission. Et c'était très bien parce qu'il rappelait le fait qu'on a tendance nous à réduire un petit peu à avec nos lunettes, à regarder. Tiens, on a tous des lunettes.
Ouais, c'est vrai. Et alors qu'est-ce qu'elles ont de nos lunettes?
On parle de politique, donc évidemment on se dit tiens, pape de gauche, pape de droite, ça a pas énormément de sens dans le parce que voilà, lui il a un prisme qui est mondial. Donc quand on a Jordan Bardella qui dit ce pape il est argentin, il comprend pas le problème nous qu'on a avec nos arabes machin, c'est exactement ce qu'il a dit.
Hein. Oui.
Alors déjà bon, il siège à Rome, donc bon, il connaît un peu la Méditerranée normalement. Je crois qu'il est d'origine européenne en plus. Mais il est pas là pour nos petits particularismes. En fait, les fachos ont un peu oublié que la religion catholique en l'occurrence, près d'un milliard de fidèles dans le monde quand même. C'est pas, on est là le déclin surtout, pas partout.
Oui, surtout en Amérique latine, en Afrique où c'est pas du tout en
60%
déclin.
60% des catholiques sont en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Et le pape d'ailleurs a fait nommer pas mal de cardinaux là qui justement viennent de ces pays-là. Donc il est venu rappeler, en fait il est à l'image, il essaie de porter une transformation aussi de son église, et il est aussi un petit peu à l'image de son église qui est en train de changer, mais qui est en train de changer même à l'échelle du monde, mais pour être au diapason aussi de ce message d'accueil, machin, qu'il y a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Et voilà, bon, je sais pas, je vais pas m'en
dire trop longtemps. Non, mais c'est intéressant, ça désigne bien ce paradoxe qui, moi, m'amuse un peu, mais que j'ai aussi envie d'analyser, c'est Usul est en train de rappeler aux catholiques l'universalisme du message du Christ.
Exactement.
C'est impressionnant quand même de se dire que...
Mais beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent, mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche, ils disent, ça vient aussi du catholicisme, ça vient aussi du message du Christ. C'est l'héritage, il est logique, si vous voulez. Rien ne vient de nulle part, mais en l'occurrence, évidemment que ce message-là, il a été important en Europe et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien.
Bien sûr, et donc je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a une dichotomie dans le discours politique quand on a effectivement. Oui, mais il y a un côté boutiquier chez notre extrême droite qui effectivement dit
non, mais pour eux c'est un marqueur culturel, un marqueur identitaire.
Non, Marion Maréchal a été très poli, elle a dit je suis en désaccord avec le pape François, il en fait trop, il a son prisme sud-américain, etc. Zemmour il y allait plus loin, il a fait bon qu'est-ce qu'il veut ce pape là, hein, il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique, c'est ça qu'il veut. Voilà, les deux disent à peu près la même chose mais en des termes plus ou moins polis, mais tu les sens irrités, comme si l'extrême droite française avait perdu le fauteuil de pierre qui a souvent été un truc sur lequel il se reposait.
Oui.
L'extrême droite française, historiquement, s'est construite en grande partie contre la République, etc., avec la protection du pape, qui, heureusement, il était là, le pape, c'était leur champion, c'était leur héros, contre ces méchants républicains, gauchistes, etc., machin. Et là, tu les sens orphelins, en fait.
Après, ce discours anti-papiste de l'extrême droite, il n'est pas non plus nouveau.
Tu veux parler de Vatican II, c'est ça?
Bah, évidemment.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Dans les années 60, bon, petit rappel, dans les années, je sais plus, 50 ou 60, Jean 23, qui fait qui modernise toutes les pratiques, donc la messe en latin, tout ça, c'est fini. Le curé, au lieu de regarder, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens. Voilà, on modernise, si vous voulez, la messe pour les rapprocher aussi de ce que vivent les gens et pour qu'ils la comprennent mieux. Et évidemment, l'extrême droite réactionnaire trouve ça horrible, parce que c'est nouveau. Déjà, ils aiment pas tout ce qui est nouveau. Et puis, le précédent, la liturgie, comme on faisait avant, c'était mieux. Ça datait quand même de il y a très longtemps. C'était très bien le latin. Enfin, ils sont conservateurs, c'est logique. Et puis, bon, ça s'accompagnait aussi ça accompagnait la transformation de la société, là où pour l'extrême droite, l'Église est censée, au contraire, ancrer dans la tradition. Ouais. Or, bah non, l'Église, elle vit, l'Église, elle change. Et il y a un truc où, alors, souvent pas assez vite, hein, sur plein de trucs, hein, la place des femmes, il y a encore plein de trucs à...
Ah bah l'avortement.
L'avortement,
tout ça. L'avortement, exactement.
C'est pas très de gauche non plus, quoi.
Mais il y a un truc où l'extrême droite va être bien attrapée, c'est qu'à terme, avec les changements qui se passent au sein de l'Église, alors pas en France, mais je veux dire au niveau mondial, qu'est-ce qui nous dit que d'ici deux ou trois papes, on n'est pas un pape du Sud ? C'est pas du tout impossible qui va encore plus porter cette parole-là du Sud global.
Là, et il est argentin, mais je vois ce que tu veux dire, encore plus du Sud.
Oui, encore plus du Sud.
Oui, il est du Sud, et en plus, il est d'origine populaire.
Oui, complètement.
Le pape François, etc. Donc, c'est pour ça que c'est surprenant, tout ce...
Un pape noir, pour le dire, c'est clair.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, lui, en tout cas, il est d'origine aussi plus populaire. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a voulu visiter les quartiers nord pour des raisons de sécurité. Ça n'a pas pu se faire, parce que je crois que l'archevêque de Marseille est originaire des quartiers nord.
Ouais.
Et il a encore ses parents. Et du coup, le pape François voulait aller leur rendre visite, etc. Et pour des raisons de sécurité, ça n'a pas pu être possible. Donc, c'est pour montrer aussi le visage qu'il voulait donner à ce déplacement et affirmer... même en France, sa position, mais qui n'est pas forcément qui est pas nouvelle. Mais c'est vrai que c'était un peu savoureux de voir des hommes et des femmes politiques qui revendiquent les racines judéo-chrétiennes de la France refuser un des messages originels, en fait, de la religion chrétienne. Ça, c'était assez incroyable. Mais en même temps,
il est
on n'entendait pas,
pas
beaucoup de Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen, mais ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que on avait l'impression que, notamment avec Zemmour et Bolloré derrière, enfin, repositionnement sur des valeurs catholiques pour la droite et l'extrême droite, c'était quelque chose qui, voilà, sur lequel ils ont pas mal insisté ces dernières années, et en gros que voilà, Bolloré était nostalgique de cette époque et de ce lien plus proche entre la droite et le milieu catholique et l'Église catholique, et ce déplacement est juste venu leur rappeler que en fait ce qu'ils étaient essayé de reconstruire, c'était vraiment propre à
mais
la France, c'est pas à l'Église catholique, quoi.
Mais
petite nuance sur Bolloré.
Vas-y.
Bolloré lui-même en effet est un catholique breton traditionnaliste, mais il est entouré aussi de gens. Écoutez, regardez Christine Kelly et quelques autres qu'on voit défiler sur les plateaux du dimanche, c'est aussi des protestants, des évangéliques.
Alors
etc.
Ça, c'est ouais.
Donc chrétiens au sens large.
Ouais, chrétiens. Et
surtout, il est
pas
impossible qu'on voit quelques-uns qui jusque-là se réclamaient du catholicisme parce que l'Église catholique, le roi, la tradition, l'action française, voilà, tu vois, c'est cette culture-là. Mais ils vont peut-être renier le pape et carrément devenir, pourquoi pas, des protestants, des évangéliques, ce serait pas impossible qu'ils renient l'Église à un moment.
Et d'ailleurs, t'as parlé
un mouvement comme ça d'américanisation, en fait.
Gad Elmaleh, etc., c'est plus ce qu'on appelle le renouveau charismatique, c'est un protestantisme New Age qui vient beaucoup des États-Unis, mais qui se développe particulièrement bien en Afrique subsaharienne, en Europe de plus en plus.
Amérique latine.
Amérique latine également. C'est effectivement un néo-christianisme qui n'est pas un catholicisme justement traditionnel et qui s'ancre dans des valeurs chrétiennes très conservatrices parfois, franchement conservatrices, mais sans être catholique à l'ancienne. D'où ma question, est-ce que...
ce qui est catholique, c'est l'Église.
Est-ce que Zemmour... Mais oui, c'est la structure et l'institution, mais là, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'ils sont en train de faire une erreur d'analyse historique, ces gens d'extrême droite, en faisant l'erreur de penser que le catholicisme à la papa existe toujours, qu'il ait toujours autant de poids et qu'il pèse aussi lourd dans les urnes. Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que le christianisme conservateur existe et il est très puissant, et on le voit du côté de Trump, on le voit machin, mais que le catholicisme, franchement, à l'ancienne, là, le côté un peu... comment il s'appelait, André justement, les
Saint-Nicolas du Chardonnay.
Ouais, Saint-Nicolas du Chardonnay, les antipapistes de l'époque.
Ah oui, merde, je vois qui tu parles, mais j'ai oublié le nom aussi.
Bref, ces gens-là ne représentent en fait plus grand monde, quoi. C'est pas énorme.
C'est vrai, mais ils sont en train de prendre l'Église, ils sont en train de prendre les postes. En France.
Oui, c'est vrai, en plus.
Mais juste en France, hein, je veux dire, c'est une dynamique...
Monseigneur Lefebvre, les Lefebvristes, c'est ça.
Merci beaucoup. Mais ils sont en train de prendre... Voilà, les jeunes qui ont des vocations viennent en général, sont des jeunes très radicaux qui viennent de milieux très conservateurs. Malheureusement, les jeunes cathos de gauche, ils vont pas au séminaire. Par contre, ils sont en train de... J'en parlais hier avec Samuel Gribowski, que j'ai croisé complètement par hasard, mais qui, vous savez, il avait animé l'association Coexister, qui était un truc pour que les religions parlent entre elles, tout ça. Là. Et du coup, il me disait qu'il y a des mouvements là qui sont en train de se créer de jeunes cathos de gauche, un peu révolutionnaires, dont certains un peu marxistes, dont un là qui a fait il n'y a pas longtemps un millier là de jeunes. Alors je sais plus comment ils s'appellent, leur nom c'est tout nouveau.
C'est intéressant ça.
Oui, c'est intéressant.
Mais ça change des vieux mouvements de cathos de gauche, la JOC, le MRJC qu'on adore, hein, mais qui sont un peu.
Ils sont très présents dans les trucs des écolos là, et puis ils sont aussi présents dans les trucs d'accueil des migrants.
Non, mais c'est vrai. Et ce pape parle probablement plus à ces jeunes-là.
Ils sont fans.
J'imagine bien, ouais. J'imagine bien. Donc, je sais pas très bien où tout ça va nous emmener, mais elle était quand même assez intéressante, cette visite du pape François. J'ai l'impression que on en a parlé, mais différemment de, je sais pas, j'ai l'impression, quand Jean-Paul II était venu à Paris, je sais plus à quel moment des années 90, le niveau de couverture médiatique était stratosphériquement plus important que ce qu'on avait là. Là, j'ai l'impression que c'était une... Ah oui, au fait, il y a le pape à Marseille. Ok, on envoie des...
Ouais, je rigole, il y avait des directs partout.
Ouais, il y avait des directs direct sur la messe, machin. Mais
non, samedi, c'était non-stop.
On a eu 3 jours. Okay, okay. Non, t'es pas...
Non, je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était pas ouf.
Que de ça, quoi.
Ah si.
97, ouais. Non, mais oui, non, il y a eu des couvertures live, notamment sur la messe, mais même la rencontre avec Emmanuel Macron a été, j'ai l'impression, moins couverte que ça, mais bon. Je sais pas. Non, j'ai l'impression d'être tout seul. Donc, ok, non, mais d'accord, le chat aussi, vous avez été bluffé par le truc. Ok, autant pour moi. Est-ce qu'on a d'autres sujets, les amis, dans l'actu que vous voudriez aborder? Il nous reste quelques minutes. C'est cool, vous avez vu, cette saison, on a du temps. Et ça, c'est chouette.
Oui,
on est moins pressé.
J'ai un truc à dire.
Oui, Sacha.
Les anciens journalistes du JDD organisent une soirée le lundi 9 octobre. Voilà, pour remercier les gens qui nous ont soutenus, notamment pendant la grève. Ce sera au Théâtre du Châtelet. Il y a une billetterie qui n'est pas très élevée. Il y a des prix préférentiels pour les étudiants. Et donc, ce sera une soirée qui sera avec plein de petits spectacles et de trucs sympas, suivi d'un cocktail.
Il n'y aura pas Mélenchon, du coup.
Ouais, c'est ça que j'avais demandé.
Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je peux lui envoyer personnellement une invitation, mais ça va être un peu compliqué, à mon avis. Et pour dire aussi qu'on annoncera ce soir-là, normalement, le lancement d'une association pour l'indépendance de la presse.
Oh !
Voilà.
Mais il y a déjà des trucs.
Il y a déjà des trucs qui existent. Ça en fera une de plus.
D'accord. Très bien. Au mieux trop que pas assez.
Exactement.
Hein. Voilà. Ok. Eh bien, c'est chouette. Non, mais c'est chouette comme annonce. Ok, donc le 9 octobre, et on trouve les infos quelque part sur les internets.
On trouve les infos sur le compte Twitter des anciens du JDD, c'était la SDJ du JDD, mais la SDJ s'est dissoute vu qu'il n'y a plus personne. Donc c'est les anciens du JDD.
Ok, et écoute, très très chouette.
Et je crois que tu en reçois une d'ailleurs samedi dans ton émission.
Oui, non, absolument, dans Paul & Chill. Ouais. Absolument, je reçois. Ok, merci pour cette annonce. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'actualité dont on culpabiliserait de ne pas avoir parlé à l'occasion de cette formidable émission qui s'appelle Backseat?
Pour revenir juste sur un truc, sur quand vous parlez des évangélistes, et du coup dans ma tête j'ai revu quand on sort du RER, ouais, les gens avec leur petit chariot qui essaient de convertir les gens.
Alors ça,
et
c'est témoin de Jéhovah, ça.
Est-ce que l'église des Saints Derniers Jours, c'est qui?
Ah, les saints du dernier, c'est des baptistes, donc c'est des, oui, c'est pas des...
C'est ça, c'est des protestants.
C'est des protestants.
Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, à chaque fois, surtout je les vois plutôt dans les quartiers populaires, quand je travaillais au Bondi Blog, à Bondi, etc.
C'est les Mormons.
Et bref, et la seule réflexion...
Ah, c'est les Mormons, ça?
Ah, c'est les Mormons, ok.
Ah, ouais. Saints du dernier jour.
Ah, carrément.
L'église des saints derniers... Ouais, voilà. Et à chaque fois, je me disais, imagine un imam avec une grosse barbe qui est là à la sortie du métro pour convertir les gens.
Les quiétis.
Est-ce que ça se passerait de manière aussi tranquille, au niveau médiatique et politique? Et voilà, mais c'est toujours, moi ça me fait rire, mais c'est toujours une réflexion que je me fais quand je les vois, je me dis, imagine une autre religion, quoi. Enfin, une toute autre religion où les gens, ils seront là, convertissez-vous.
Là aussi, ma culture s'arrête là, mais comment s'appelle cette fête juive dans laquelle il y a parfois dans Paris des voitures qui se baladent avec des haut-parleurs et qui appellent
Hanouka.
C'est Hanouka,
ouais.
C'est ça.
Où c'est la fête des Lumières.
C'est la fête des Lumières et on annonce
une
la bonne nouvelle.
Tous les jours.
Mais il y a des véhicules qui circulent dans Paris avec des décorations, avec des haut-parleurs, ça balance de la musique et ça fait partie de la fête, c'est annoncer la bonne nouvelle.
Mais ça ne va pas convertir.
Non, mais c'est un truc de célébration, et c'est vrai que c'est rare, un truc où les juifs sont publiquement, etc. C'est assez rare, et c'est en tout cas le truc que je retiens. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pareil, je me dis, putain, mais le jour où les musulmans font un truc pareil, le niveau d'hystérie...
À Lyon, qu'on aura... T'imagines à Lyon?
Oui, non, mais c'est ça, à Lyon. Et on va les faire chier sur des prières dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées, où on les accuse de faire du prosélytisme alors que juste ils n'ont pas de place dans la mosquée. Tu dis putain.
Ouais, moi, c'est juste sur ce truc de prosélytisme et tout. Je me suis dit, une genre de fiction dans ma tête rapide.
Imagine, ils font ça devant chez Caroline Forest.
Waouh. Ça fait la une.
Elle explose.
Ouais. Alors, je pense qu'elle est en boucle sur tous les plateaux.
La laïcité de l'espace public. Alors, on va le redire pour la millième fois depuis un siècle. La laïcité n'est qu'un principe de neutralité de l'État et de ses agents et de certains de ses usagers, notamment les enfants dans les écoles, mais pas des gens. Voilà, l'espace public n'est pas laïque. L'espace public, vous avez le droit de faire des manifestations religieuses dans l'espace public, déclarations en préfecture, tout ça, machin. La laïcité, ce n'est pas dans l'espace public. Ça a à voir avec la fonction publique.
Ah, on nous a demandé pourquoi on n'a pas parlé de Charles III. Qui s'en branle de Charles III?
Oh, rien à foutre. Oublié.
Ah,
ouais.
Ah non, tu voulais en parler?
Non, je l'ai oublié qu'il était élu.
Ah, ouais. Oui, non, mais voilà, c'est
ah,
ça.
Carrément, alors que.
Charles, bah, quoi lui dire? Salut Charlie, bienvenue en France.
C'est la semaine où on reçoit des mecs déguisés.
Non, par contre, il y a plein de gens dans le chat qui parlent de Disclose et d'Ariane Lavrilleux.
Ah, bah oui, bah ça, oui, on pourrait.
Qui a passé 36, 39 heures en garde à
38,
vue.
Ouais, je crois.
Et oui, aujourd'hui, on sait ce que la police a saisi.
Alors, attends, on va faire la pédagogie, parce que pour ceux qui n'ont rien compris, voilà, une journaliste qui s'appelle. Non, mais je le fais rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes. Ariane Lavrilleux est une journaliste d'investigation qui a enquêté sur les petites magouilles des services secrets français en Égypte. Et long story short, elle a fait plusieurs jours en garde à vue la semaine dernière dans les bureaux de la police. Alors, est-ce que c'était directement les services du renseignement ou pas?
Non, c'était la police.
Non, c'est la police. Ouais. Elle a été perquisitionnée chez elle très tôt le matin et elle a passé 39 heures en garde à vue.
Voilà, et ça provoque une mobilisation des personnes qui dépendent de l'indépendance des médias et notamment un principe extrêmement important qui s'appelle la protection des sources. Ce que cherchent les policiers, visiblement, c'est identifier les personnes qui ont parlé à cette journaliste pour les empêcher de parler. C'est un principe très fragile de la liberté de la presse, c'est la protection des sources. Les journalistes n'ont pas l'obligation de dire qui leur a dit quoi. Ça fait partie de la protection du métier. Le journal dans lequel elle publie ou le site internet sur lequel elle publie s'appelle Disclose. Donc voilà, vous avez normalement tous les éléments. Et oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Tu voulais en dire un truc particulier
Non, mais j'étais super choquée de voir ce qu'ils avaient saisi, notamment des notes, etc. chez elle, par rapport à ce que tu as dit sur le secret des sources. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand on se pose de 2 minutes, c'est assez effrayant, en vrai. Ce qui s'est passé pour la liberté de la presse, juste.
Ouais,
quand du coup c'est une presse indépendante, etc., que l'État peut toujours venir empiéter sur
En stream, pour faire comprendre aux gens, je leur disais, imaginez, vous êtes journaliste, c'est un boulot qui est déjà faut les choper, les sources, révèles un truc, t'es déjà hyper prudent, hyper parano, etc. Mais d'un coup, on vient, on t'aspire toutes tes données, tout ton téléphone, tout. Et je disais aux gens, imaginez, peut-être t'as échangé des SMS avec ton dealer pour la weed, il y a peut-être tes nudes, il y a peut-être des trucs que t'as pas envie que tu saches, que t'as pas envie qu'ils sachent d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas illégal, des impôts. Et derrière, t'es en garde à vue pendant 38 heures. Comment ils peuvent jouer de tout, l'idée c'est de la briser. 38 heures, c'est énorme.
En fait, il y a ça.
Énorme.
Il y a ça, et puis il y a aussi une volonté d'envoyer un message, non pas aux journalistes, mais à tous les gens qui bossent dans les services de renseignement. Pour leur dire.
Et qui parle aux journalistes.
Ouais. Mais justement, en fait, c'est ça aussi, c'est de faire pression sur toutes les sources potentielles en disant, vous avez vu ?
On va vous retrouver.
On va vous retrouver. Mmh. On aspire les téléphones, on leur fait des gardes à vue, donc si vous parlez aux journalistes et tout. Et c'est ça, en fait, c'est là aussi que cette attaque, elle est dangereuse, indépendamment de ce qu'a vécu la pauvre Ariane Lavrilleux. Il y a aussi toutes les sources, toutes les personnes qui parlent, qui dans les entreprises, dans les services de l'État, les services secrets et les affaires militaires en particulier, doivent être morts de trouille. Et c'est une culture de la terreur qui essaye d'empêcher les gens de parler.
Est-ce que vous savez que depuis 20 ans, le nombre de journalistes a été divisé par 2?
Non, ça, je savais pas.
Et que, alors je sais plus si c'est 20 ou 30, je sais plus, 20 ou 30 ans, mais que le nombre de communicants, lui, a été multiplié. C'est-à-dire que quelle société, c'est ça qu'on veut. Parce que, évidemment, si vous voulez informer sur les entreprises, informer sur les politiques, qui maintenant bétonnent une com, ils ont des communicants, et nous, les journalistes doivent aller chercher derrière pour voir ce qu'il y a. Si on leur dit, ça va être dur, et puis en plus, tu vas être puni. Et en plus, on va te pourrir la vie. C'est chaud. Bon, est-ce qu'on veut une société avec plein de communicants, ou est-ce qu'on, parce que même les journaux se remplissent de eux-mêmes, de pubs, de machin. Est-ce que d'une certaine manière, le JDD n'a pas été repris par des communicants d'extrême droite? Est-ce qu'on fait encore du journalisme au JDD? Qu'est-ce que le journalisme?
On continue cette discussion, notamment sur Ariane Lavrilleux et sur l'indépendance des médias et la protection des sources. Samedi, à l'occasion de mon émission spéciale Paul & Chill, je vous l'avais annoncé, c'est mon nouveau projet après Backstreet.
Ah merde, je t'ai spoilé tout à l'heure.
Non, pas du tout.
Non, ça va. Okay.
Non, pas du tout. Non, je viens de me dire que c'était l'occasion de faire de la pub. Je lance un festival, j'organise un festival, le but étant de parler de politique de la manière la plus chill possible, d'inviter des personnes de tous les milieux et surtout les personnes les plus éloignées de la politique à venir passer un moment détente, bonne ambiance, tranquille, au cours duquel il y aura des conférences, des tables rondes, des gens passionnants qui vont prendre la parole pour parler de politique. Ça se passera pour la première édition dans une version réduite dans un bar à Paris. Il reste quelques places d'ailleurs pour la soirée. Il n'y a plus de place pour le festival dans la journée, mais il reste des places pour la soirée. Donc venez vous mettre la tête à l'envers et danser. Ça va être trop cool. Et l'été prochain, j'espère réussir à organiser ce festival, mais cette fois-ci vraiment en plein air, avec de la pelouse, avec des barbecues, avec de la musique, etc. Voilà, ça s'appelle Paul & Chill. Et parmi les discussions...
Avec des quoi ?
avec des barbecues.
Des quoi ?
Des barbecues VG.
VG ou pas VG ?
Et bah les deux. Tiens, voilà, il y aura les deux autres.
Tu tranches.
Ouais.
Donc
voilà. Donc venez, ça va être trop cool. Et ce sera sur Twitch, évidemment, ce samedi, à partir de midi, des tables rondes, des conférences, des gens passionnants. Il y aura Usul, il y aura. Comment elle s'appelle ? Manon Bril sera là.
Comment elle s'appelle ?
Non, mais je suis fatigué. Voilà, il y aura des politiques, il y aura des journalistes, il y aura des chercheurs, il y aura des gens qui vont venir continuer les discussions avec nous. Et ça va être extrêmement cool. We'll be right back.